Tout le monde connaît la raison pour laquelle le sixième jour de la création est nommé Yom HaShishi, alors que les autres sont nommés sans Hei, Yom Revi'i, Yom Chamishi et Yom HaShishi. Souvenez, vous savez que la raison Une des raisons qui sont données, c'est que la création, en fait, elle est suspendue. Akadosh Baruch Hu a créé un monde, mais il a suspendu cette création au sens où elle est suspendue à l'acceptation par les Bnei Israël de la Torah. La référence, elle est dite par le Hé du Yom HaShishi, en disant qu'il existe un autre Shishi, un autre sixième jour, qui va jouer aussi un rôle de jour de création. C'est le fameux Sis Sivan, qui est le jour du don de la Torah. Et donc, le Drash rapporte qu'Hachem a dit, si les Bnei Israël acceptent la Torah, alors le monde que j'ai créé perdurera. S'il ne l'accepte pas, alors je ramène le monde dans son état de chaos. Donc, la première création est une création sous condition, suspendue en quelque sorte à l'acceptation par les Bnei Israël de la Torah. Auparavant, on parle de création. Chazal disent que Akadosh Baruch Hu a construit et détruit des mondes, construit et détruit, sans qu'on nous dise clairement ce que ces mondes étaient, pourquoi ils ont été créés, pourquoi ils ont été détruits. On verra par la suite peut-être une explication de cette information qu'on nous donne sans nous donner plus de commentaires et dont nous ne savons pas trop quoi faire. Rashi, sur le début, sur le premier psukim, le premier pasuk, le pasuk qui dit Bereshit bara Elohim, alors Rashi dit tout de suite que c'est un texte qui demande à être explicité. Et Chazal l'ont expliqué, dit Rashi, en disant le monde a été créé pour la Torah qui est appelée le commencement de sa voix, dans Michelet, pour Israël qui est appelé le commencement de sa moisson, d'un pasouk dans Yirmiya, il y a aussi un pour les tzadikim, etc. Le Rashi va donner une lecture de ce verset, mais il ne la donne que en deuxième lieu. Il va dire, si tu veux l'expliquer selon le sens littéral, tu peux le faire aussi. Et tu diras, au commencement de la création des cieux et de la terre, alors que la terre était au vavo et que les ténèbres, etc., Elohim a dit que la lumière soit. Donc, Rashi dit, si tu veux l'expliquer selon le sens littéral, alors on va dire que Bereshit bara Elohim, c'est au commencement de la création des cieux. C'est-à-dire ici, on ne nous dit rien du tout de la création, on dit simplement que quand on a commencé à créer, quand Hachem a commencé à créer, alors Hachem a dit que la lumière soit. En d'autres termes, il n'y a rien dans ce texte qui indique quoi que ce soit de la création, on dit simplement au commencement de la création, mais c'est tout. On ne te dit pas ce qui s'est passé, etc. Et comme Rashi dit, évidemment, ce texte-là n'est en rien une description de la création, comme aussi Ramen et d'autres, les Mefarshim rapportent ça aussi. Vous voyez bien, dit Rashi, que le deuxième verset dit « Ve'aretz hayta tohu vavohu v'choshech al pnei tehom v'ruach Elokim merachefet al pnei hamayim » Et on n'a jamais annoncé la création de la terre, de l'eau. Il y a de l'eau avant la création. Avant le Vayihi Or, il y a déjà de l'eau. On n'en a pas parlé. Donc Rashi dit, évidemment, il ne s'agit pas du tout d'un récit qui nous dirait quelque chose de l'ordre dans lequel les choses ont été créées. On ne parle pas du tout de la création elle-même. Ceci mis à part, le verbe qui est utilisé, qui est le verbe « bara », ne fait pas référence au monde de la Asiya, comme on dit, au monde de l'action, au monde du faire, mais un monde bien supérieur, et on parle de choses très élevées en réalité. Et on parle ici de, peut-être, de la cause, éventuellement. La cause de, comme dit Razal, la cause c'est pour la Torah, pour Israël, pour les Tzadikim, etc. Mais pourquoi créer ? Le Midrash Rabba dit que Akadosh Baruch Hu dit si je crée l'homme, alors des personnes tordues vont apparaître aussi. Mais si je ne le crée pas, d'où viendront les Tzadikim ? Si je veux des Tzadikim, je veux qu'il y ait des Tzadikim. D'une certaine manière, le prix à payer pour les tzadikim, c'est la création. Mais la création n'est pas entièrement sous contrôle. On verra, il faut entendre le mot « bishvil ». On dit « bishvil la Torah »,« bishvil Israël », »,« bishvil la tzadikim ». Pas obligatoirement comme voulant dire « pour », mais « bishvil » c'est « par le chemin ». Un « shvil » c'est un chemin. « Par le chemin de ». Donc ça ouvre toutes sortes de lectures possibles. La création, pour nous, elle intervient en quelque sorte dans notre calendrier à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, après les tfiyot, après les sonneries de shofar, on dit une phrase Hayom harat olam. On a l'habitude d'entendre ou de traduire, c'est pas une vraie traduction, mais on l'entend comme aujourd'hui le monde a été créé. Mais d'où vient cette phrase? D'où vient cette drôle de formulation harat olam? C'est très curieux, ça vient d'un pasouk du Navi Yirmiya. Le prophète Yirmiya, auquel les Bnei Israël ont fait toutes sortes d'ennuis, de méchanceté, de choses incroyables. À un moment donné, Yirmiya dit « Ahur ayom asher yulad tibo »« Maudit soit le jour où je suis né » On dirait Iov. Il dit « Que le jour où ma mère m'a mis au monde ne soit pas béni » Et puis deux psukim plus tard, il dit Asher l'homme et tani merechem vatili imi kivri verachma harat olam. Rashi dit qu'est-ce que veut dire ici harat olam? Herayon shel olamit. Harat, ça veut pas dire, ça veut dire être enceinte. Dans une traduction française de ce verset, pourquoi ne m'a-t-il, on parle ici de Malach HaMavet, de l'ange de la mort, pourquoi ne m'a-t-il pas fait mourir dans le sein qui me portait? Ma mère m'eût servi de tombeau et ses flancs eussent à jamais gardé leurs fruits. V'rachma harat olam. Son rechem, sa matrice, aurait été dans un état éternel, enfin, aurait été éternellement dans un état de herayon, dans un état où elle était enceinte, mais pour l'éternité, elle n'aurait jamais accouché. Il aurait voulu que sa mère ne le mette jamais au monde. Et les Chachamim ont pris ce verset et ils ont interprété ce verset. Parce que nous ne le lisons pas du tout comme ça. On le dit à Rosh Hashanah après les Tkiot. Pas du tout de cette manière-là. Ils ont transformé les Chachamim. Ils ont dit Harat comme si ça voulait dire être né. Le monde est né, il a été créé. Et Olam, qui voulait dire ici l'éternité, ils ont transformé ça en Olam en disant que c'est le monde. Le monde a été créé à partir d'une phrase dans laquelle les mots Harat, Olam veulent dire rester pour l'éternité enceinte. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand une mère est enceinte, l'enfant qu'elle porte, c'est en quelque sorte un ensemble de potentialités. Et quand l'enfant naît, alors il y a actualisation de certaines de ces potentialités. Et disparition des autres. Et donc, ce que les Chachamim ont l'air de vouloir dire ici, quand ils disent que Hayom Harat Olam, il faut peut-être garder Harat dans le sens d'être enceinte, c'est-à-dire de garder les potentialités. Hayom Harat Olam, aujourd'hui, le monde est plein de potentialités, c'est ça que ça veut dire, en fait. Et on comprend un peu mieux pourquoi Chazal le dit justement sur ce jour-là. On a vu déjà plusieurs fois que, en disant que Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire de la création du monde, on faisait en fait un raccourci, parce que Rosh Hashanah n'est pas l'anniversaire de la création du monde, mais l'anniversaire de la création de l'homme. C'est le sixième jour. Le monde a été créé le 25 Elul, s'il y avait un calendrier, et pas le premier Tishri. Donc en fait, Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire de la création du monde. De l'homme, pardon, excusez-moi. Et pourtant, on dit, les Chachamim nous font dire, en quelque sorte, quelque chose qui semble inexact. Pourquoi on dit Ayom Harat Olam? Alors que c'est aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la création de l'homme, c'est pas celle du monde. Et peut-être que justement, ce qu'on veut dire ici, c'est que ce qui nous intéresse dans la création du monde, c'est seulement le moment où ce monde est riche de potentialités, et les potentialités, elles arrivent avec l'homme. C'est l'homme qui est riche de ses potentialités. C'est l'homme qui va utiliser le monde selon toutes ses potentialités. Il va actualiser de certaines manières ses potentialités à travers le monde. Et donc, en fait, il faut comprendre Hayom Harat Olam, aujourd'hui, le monde est riche de ses potentialités. En fait, c'est une leçon. C'est une leçon. Il y a des gens qui, en fait, ne veulent pas naître. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne veulent pas mettre actualiser leur potentialité. Ils restent sans s'exprimer, sans sans parler, sans donner tout ce qu'ils sont capables de donner. Et la Torah vient et dit, mais vous n'avez, si c'est comme ça, vous n'avez rien compris au monde. L'homme est là pour actualiser ses potentialités. En réalité, Rashi commence donc son grand commentaire sur la Torah en disant, oui, il y a une lecture. Si tu veux, tu peux lire le texte. Comme je vous ai dit, il y a un pshat. Au commencement de la création, alors, effectivement, Hachem a dit, mais il ne le dit que en deuxième lieu. Au départ, Rashi ramène les Chachamim qui ont enseigné que c'est pour Israël, pour la Torah, pour les Tzadikim. Hachem fabrique donc d'une certaine manière un monde. Il met en place un monde avant la venue de l'homme. C'est un monde qui va chercher en quelque sorte son auteur ou ses auteurs. Avec la création de l'homme, des hommes, ça veut dire qu'il viendra un moment, aujourd'hui ou demain, où quelqu'un viendra, un être humain en vérité, qui va créer le monde. Ce monde est à créer au sens, il faut lui donner un sens, il faut prendre ce monde-là et en faire quelque chose. Comment est-ce qu'on va en faire quelque chose? Eh bien avec les potentialités de chacun. C'est pourquoi on comprend bien que il faut comprendre que c'est une œuvre collective. Chacun va développer dans le monde des choses en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il a comme potentialité, il va les actualiser d'une certaine manière, il va donc donner un certain sens, il va faire vivre le monde d'une certaine manière. C'est en cela que d'une certaine façon nous sommes Tselem Elohim, on est à l'image d'Elohim. Un créateur. L'homme est aussi créateur. C'est une tâche qu'il a. Il y est obligé. Il va falloir que l'homme se transforme de telle sorte qu'il soit capable de se tenir devant Hachem. Takire olam od lefanecha, on dit dans la tfila de Neila. Donc beaucoup a permis à l'homme de se tenir devant Hachem. Se tenir devant Hachem, c'est justement avoir donné un sens au monde. C'est plus vraiment un scoop, ça n'a pas marché. Adam Arishon a fauté. Et en particulier, à cause de lui, la terre a été, comme on dit, maudite. Suite aux actions de l'homme. Parce que Shamata le Kol Ishtecha, etc. De même pour Caïn, etc. La terre est maudite. Le Kalel, on en a déjà parlé souvent. Le Kalel s'est construit sur le mot Kal. il veut dire léger. Le kalel, c'est rendre, essayer de rendre, quantité négligeable, celui qu'on est mekalel. Donc si la terre a été maudite, ça veut dire qu'elle est devenue quantité négligeable. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas donner ce qu'elle peut donner, normalement. Mais c'est la suite des actions des hommes. Les hommes ont fait que la terre s'est totalement fourvoyée. Il y a Chazal qui dit que la sanction de tout cela, c'était l'expulsion de Adam, du Gan Eden. Et si on va, on y reviendra, mais si on va tout de suite au Maboul, c'était cette quasi-destruction du monde, il y a Chazal qui dit que durant le Maboul, il y a trois tfachim, si vous voulez, 30 cm de terre à la surface du globe qui ont disparu. Ils ont été entraînés, on ne sait pas très bien où, mais entraînés, ça a disparu. Si vous vous rappelez un petit peu vos cours de physique, c'est un peu rien. La Terre, elle ne tourne plus à la même distance. Le Soleil, tout est changé. La Terre n'est plus la même. C'est pour nous donner un petit peu d'idées sur ce que c'était que le Maboul. Qu'est-ce qui se passe là, à ce moment-là? Mais on revient. Cette terre, elle est maudite. Ça veut dire que la terre ne produira plus en fonction du niveau spirituel de la personne. C'est déconnecté. Désormais, quelle que soit la situation spirituelle de l'homme, il devra travailler la terre. Je saute des générations et des générations. Entre Adam Harishon et Noach, il y a 10 générations. Je saute ces 10 générations. On arrive à Noach. Noach, quand il naît, on lui donne ce fameux nom de Noach. On va dire, la Torah va dire, Noach matza chen. Noach a trouvé grâce. C'est donc un palindrome, Noach et le chen. C'est à la fois une nechama, consolation, et aussi un confort. On pensait qu'avec Noach, qui est présenté comme étant l'inventeur de la charrue ou du soc de charrue, vous m'avez compris, on n'aurait plus besoin de travailler directement avec nos mains, et que par conséquent, la malédiction de la terre était terminée. Mais ça n'a pas marché non plus. Lors de la création, la première création, dans le texte, on a à un moment donné, vous voyez bien le texte de la création, il est en, c'est Bereshit bara Elohim, et ensuite on utilise le mot Elohim jusqu'à un certain moment où on dit Vaïta Hashem Elohim Gan Ve'eden Mikeden. Lors de la plantation de ce jardin à Éden, on utilise le mot Hashem Elohim. Hashem Elohim, c'est ce qu'on appelle Shem Malé. C'est un nom divin plein, puisqu'il y a à la fois le tétragramme et à la fois Elohim. Shem Malé. On dit à... Chazal disent que chez Rabbi Yanaï, on enseignait pourquoi est-ce qu'on mentionne un Shem Malé dans la plantation du Gan, de l'Éden. Parce qu'au début de la création, ça doit être parfait. Ça doit être parfaitement dirigé, sans aucun écart. Lorsque Noach sort de l'arche, il sort de la boîte dans laquelle il était. La première chose qu'il fait, Pasouk le rapporte, Pasouk dit en fait que Vayachel Noach, ce mot de Vayachel Noach, Rashi dit, Rashi se base sur le Midrash, Rashi dit que Noach est devenu chol, il est devenu profane, il s'est profané. Noach était un être de Kdusha. Il avait été singularisé, c'est-à-dire rendu kadosh, par Hachem, puisqu'il est le seul à avoir été sauvé dans l'arche. Mais en plantant cette vigne-là, il s'est rendu profane. Et Onkel et d'autres disent qu'il faut, traduire le Vayachel sous la forme de Hitril. Il a commencé. Il y a donc deux lectures, si vous voulez, possibles, de ce que représentait vraiment le processus de plantation de la vigne. On va y revenir. Je reviens maintenant de nouveau un peu en arrière. On a parlé du Maboul. On a parlé du déluge. C'est curieux parce que dans les causes du déluge, d'un côté, le Passouk nous présente les causes comme étant l'immoralité et l'idolâtrie, Kiloui Arayot et Avodah Zarah. Et là, le Passouk dit, quand il y a ces deux choses-là, l'immoralité et l'idolâtrie, alors, Andralamusia Balaolam, c'est-à-dire il y a une destruction de tous dans le monde. Les tzadikim comme les rishaim, c'est une destruction totale. Donc la justification de la destruction totale au moment du Maboul, c'est Avodah Zarah et Giloui Arayot. Mais le Passouk dit que le décret a été scellé à cause du Hamas, à cause du vol avec violence. Hamas, c'est du vol, au sens où c'est quelqu'un qui il voit chez l'autre quelque chose qui lui plaît. Et il lui dit... Vends-moi cette chose-là. Donc, tu dis, mais c'est pas à vendre. Il dit, ben si, je veux l'acheter. Je propose. Non, je le vends pas. Alors, le Hamas consiste à prendre l'objet, quitte à mettre de l'argent sur la table, quitte à mettre la valeur et peut-être mieux, plus que la valeur. Peu importe. Plus, moins, peu importe. Sur la table. C'est du vol, avec violence et avec bonne conscience. Il dit, j'ai payé. Ça, c'est Hamas. Et le Hamas, c'était aussi cette idée que je veux tout pour moi. C'est ce que Hazal disent, que justement, dans l'immoralité, si vous voulez, dans Gilui Arayot, il y a, dans la liste des Arayot, le parashot de Achemot Kedushim là-bas, à un moment donné, le pasouk dit Chesed, il dit que une des relations interdites, on ne va pas entrer maintenant dans le détail, une des relations interdites, elle est interdite et c'est marqué Chesed. Chesed, a priori, ça veut dire bonté, générosité. Parce que certaines fois, l'immoralité et même la avodah zara apparaissent comme générosité. Ça peut apparaître, on peut emballer ça, faire apparaître comme de la générosité. Mais à l'époque du Maboul, c'était Hamas. À l'époque du Maboul, c'était que chacun prenait ce qu'il voulait. Il n'y avait aucune dimension même d'apparence de générosité. C'était Hamas, c'est-à-dire je prends ce que je veux. Les gens disent, quand une jeune femme était prête, elle allait sous la choupa, alors si quelqu'un était plus fort que les autres, il venait, il la prenait. C'est ce, tout m'est permis, si j'en ai le pouvoir, tout m'est permis. C'était ça la génération du déluge. Le pasouk dit, c'est Hachem qui parle à Noach et il lui dit, Ishrit kol basar et darko al haaretz. Toute chair a corrompu sa voie sur terre. Désintégration complètement de l'identité qui est en, mais elle est en miroir. Parce que le verset d'après dit, Ineni mashritam et haaretz. Je vais désintégrer toute chair. Les structures sont déjà perdues. Hachem dit, voilà. Les gens se sont complètement désintégrés, je vais terminer cette désintégration. Hachem dit, l'Agmara dans Sanhedrin, l'Agmara dit, le chétef, le flot, qui déconstruit toutes les différences. Hachem a donc terminé ce que les hommes avaient commencé. Et Rachid dit, le déluge, ce n'était pas un événement. C'est un processus. Et ce processus a commencé avec Hanoch. Les hommes ont commencé à nommer les êtres humains, les phénomènes naturels avec le nom d'Hachem. Donc ils ne faisaient plus la différence entre l'homme, Hachem, la nature. Et Rachid dit, sur place, à ce moment-là, un tiers du monde a déjà été inondé. Quand Hachem annonce qu'il va détruire le monde, il utilise le Emché, c'est-à-dire, il dit, je vais ramener le monde à la condition liquide. La condition liquide, c'est la condition de l'univers avant la création. C'est le maïm dont on a parlé, qui est là avant la création même. Et Rashi rapporte, Hachem dit, l'homme est formé d'un mélange judicieux de poussière et d'eau, travaillé par Hachem comme une pâte. Hachem dit, je vais l'inonder, il va se défaire. Complètement. Cette mixture va se défaire complètement. Et le Ramban dit que, à part Noach et ses fils, et leurs épouses respectives, il n'y a plus de traces de l'existence de quoi que ce soit. En fait, les petits poissons, ils sont là. Les gros aussi, les... Donc Adam et Noach sont deux niveaux de l'humanité. Adam, c'est le plus haut auquel l'homme peut accéder, mais ce niveau ne concerne pas toute l'humanité. Ce niveau de Adam HaShalem, cette perfection humaine, c'est fini. Ça n'est plus accessible à tout le monde. Désormais, l'humanité, ce ne sont plus des Bnei Adam. L'humanité, ce sont des Bnei Noach. Le monde de Noach. C'est un nouveau monde. Ce fameux monde où Noach devient Ish Adama. Ce monde de Noach, c'est un monde nouveau. C'est vrai qu'il n'est pas complètement nouveau. C'est pas complètement une création. Puisque sinon, on n'aurait pas Noach et ses fils. Donc il y a des antédiluviens qui sont dans ce nouveau monde. Mais c'est seulement eux. Mais le monde avec lequel ils vont, sur lequel ils vont travailler, ce monde-là n'a plus rien à voir, d'après Ramban, avec le monde d'Adam. On verra, on va parler de ça ce soir, on verra que après Noach, 10 générations après Noach, arrive Abraham Avinu. Et Abraham Avinu va commencer quelque chose qui est aussi un nouveau monde. Et c'est un nouveau monde qui, lui, va se rattacher non pas au Bnei Noach, mais se rattacher à Adam. Le Passouk dit Atem Kruim Adam. Les Umot Haolam ne sont pas Adam. Ils sont Bnei Noach. Abraham Avinu va essayer, c'est la Torah en fait, que les Israélites vont recevoir après, parce que ça ne va pas marcher non plus la situation par Abraham Avinu directement tel que lui il l'avait fait. On va revenir justement à cette situation de Adam, au point que, comme vous savez, on ne dira pas plus, comme vous savez, à Matan Torah, les Bnei Israël ont retrouvé la condition de Adam Arishon Kodem Achet, qui se sont empressés de perdre avec le veau d'or. Mais bon. Donc, Noach et ses fils sortent de la Teva pour engendrer à nouveau l'humanité. C'est vrai qu'ils sont là, comme je vous ai dit, antédiluviens, mais ils sont tout seuls dans cette nouvelle humanité. Noach, lui, il a été sauvé parce qu'il était tzadik, tamim. Mais ses fils ne l'ont été que grâce à lui, mais surtout pour faire démarrer la nouvelle humanité. Qui sont-ils, ces fils? Qu'est-ce qu'on peut dire de ces fils? Qu'est-ce que la Torah nous en dit? Elle nous donne essentiellement leur nom. Le Hamet Davar, sur le passouk qui dit « Ume'ele nafza kol haaretz » c'est-à-dire toute la terre provient, s'est développée à partir d'eux, à partir de ces trois fils de Noach. C'est-à-dire qu'on a une humanité, il y a Noach, mais Noach va être mis en hors-jeu par Cnan. Il ne pourra plus avoir d'enfants. Et donc les seuls capables d'avoir encore des enfants, ce sont les fils de Noach. Et ils sont trois. Donc on va commencer une humanité avec trois personnes. Les Chazal disent Pourquoi est-ce qu'Hachem a créé un seul homme? Je passe d'un monde à l'autre, mais là, vous pouvez, vous comprenez bien. Pourquoi est-ce que Hachem a créé un seul homme? Les uns disent, parce que s'il avait créé deux hommes, c'est vrai qu'on aurait évité les problèmes d'inceste auxquels on a été obligé de céder, en quelque sorte. À partir du moment où il n'y a qu'un seul homme qui est créé, Olam Chesed Ibané, comme on dit, le monde est créé sur l'inceste. La question de la Gemara, c'était, est-ce que l'inceste, ce sera l'inceste de Adam avec ses filles? Je vous rappelle que quand Caïn et Ève, elles sont nées, avec eux trois jumelles. Une avec Ève, pardon, une avec Caïn et deux avec Ève. Certains expliquent que la dispute entre Caïn et Ève, c'était qui prendra la troisième jumelle. Et de toute façon, c'était incestueux. Que ce soit un inceste père-fille ou un inceste frère-sœur, de toute manière, on ne peut pas y couper, en fait. Mais, alors, pourquoi est-ce que Hachem n'a pas simplement créé deux grandes familles? On aurait évité ces incestes. Hazal explique que si Hachem a dit... Si j'en crée deux, ils vont faire la guerre en se disant « moi j'ai été créé avant toi ». La réalité, c'est qu'on a eu l'inceste et la guerre. Mais ici, on part de trois. On part avec trois personnages. Et le Nesiv dit, le Ratzon Hashem, la volonté d'Hashem, c'était que le monde, effectivement, soit gouverné par trois principes. Ces noms-là, c'est des noms de principes. C'est-à-dire, trois façons d'être des humains. Il y a des gens simples. C'est pas correct, politiquement correct, mais ils disent que c'est les paysans. C'est des gens qui n'ont pas une grande sensibilité. C'est pas très fin, c'est un peu grossier, etc. Ensuite, il y a des gens plus éclairés, plus sensibles, plus intellectuels, plus humains. Et puis ensuite, il y a des êtres spirituels, des êtres quasiment divins, Dvukim Bashem, qui vont être ce qu'on appelle la Merkava, le chariot divin, le support de la présence divine dans le monde. De ces trois-là, la terre a été peuplée. Évidemment, il y a eu des mélanges. C'est ça qui fait tout l'intérêt de l'humanité, en fait. Il y a des gens qui ont passé aussi d'un état à l'autre. Le Nesiv ramène, comme exemple, il amène Tevi Avdo chez le Rabban Gamliel. Rabban Gamliel avait un esclave, qui s'appelait Tevi, qui était un Talmid Chacham, un sage. La Gemara dans Souka rapporte que lui, il savait où il devait dormir pour ne pas embêter le monde. Donc lui, il est passé de la condition d'esclave à la condition de Talmid Chacham, spirituel, très élevé. C'est mélangé, il ne l'a pas libéré pour autant à ce moment-là.
Il était toujours son esclave.
Mais c'était probablement l'esclavage, un état, il le servait, mais il était un, je ne sais pas si c'était son alter ego dans la discussion, mais en tout cas il était devenu un Talmid Chacham, et Rabban Gamliel se vantait devant ses collègues, regardez, Tevi Avdi, comme il est Talmid Chacham. Ces trois forces, donc, ces trois types d'hommes sont à l'œuvre. Il y a une petite difficulté, c'est qu'on présente Ham comme le père de Knaan. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on... Il y aura plus bas dans le texte, on verra la liste des descendants de Shem, des descendants de Ham et de Yafet. C'est... Pourquoi ici Ham est-il présenté comme étant Avi Knaan? Le père de Knaan. En réalité, ça veut dire que la personnalité, ce que représente Knaan, était déjà dans la personnalité de son père. Dans la Torah, lorsque la Torah présente les interdits des relations sexuelles incestueuses ou autres, ça commence Kemaase Eretz Mitzrayim, etc. ou Kemaase Eretz Kenan, vous ne ferez pas comme on faisait en Égypte, là vous avez été esclave, vous ne ferez pas non plus comme on fait, comme on pratique dans le pays de Knaan, le pays où je vous amène. Parce que eux, ils avaient effectivement toutes sortes de relations que je vous interdis là. Ça veut dire que Gilui Arayot, c'est à ce point caractéristique de Knaan, c'est devenu leur identité. Eretz Knaan, c'est le pays de Gilui Arayot. En parler ici, c'est dire que Ham, dans la Teva, dans l'Arche, Ham avait développé cet aspect de sa personnalité. Il représente un désir débridé. Dans la Teva, au moment où le monde est détruit par Akadosh Baruch Hu, les êtres humains, et le monde animal non plus d'ailleurs, n'avaient pas le droit d'avoir des rapports sexuels. On peut pas l'homme, en particulier l'homme, ne peut pas être en train de construire dans un monde où Akadosh Baruch Hu est en train de détruire. Mais dans le Midrash, c'est marqué que Ham a transgressé cet interdit. Et si on y regarde un peu plus près, on a l'impression que, comme Knaan est son quatrième enfant, il a eu... C'est difficile à comprendre comment il a fait ça, mais il a donc eu tous ses enfants dans la Teva. Parce que tout de suite, bon, je ne sais pas qui était préposé à la maternité dans la Teva, et comment il a fait, parce que ça n'a pas duré tellement longtemps, la Teva. Bon, enfin, il a eu quand même ses quatre enfants, puisque Knaan est le dernier. Et Knaan est né dans la Teva. Et qu'il n'y avait pas d'enfants à ce moment-là. Alors, quand ils sont entrés dans la Teva, ils étaient mariés, mais ils n'avaient pas d'enfants. Ou en tout cas, s'ils avaient des enfants, les enfants n'ont pas été pris avec dans la Teva. Donc, Ham a eu tous ses enfants, qu'il a continué une vie conjugale normale. Le mot Teva, qui est l'arche, la boîte, c'est aussi le mot qui veut dire mot, émoté. Teva, ça veut dire à la fois émoté, mot, et aussi la boîte. David Amelech dit dans Teilim, Tzion Masger Nafshi, le Hodot et Shemecha, libère-moi de ma prison, de ma fermeture que je puisse bénir ton nom. Et le Midrash Tanhuma dit que Hashem a dit à Noach, sors de la Teva, sors de l'arche. Et le Midrash met en rapport ce verset de David HaMelech, qui dit « Libère-moi de ma prison ». Et le Tanhuma dit que dans la Teva, Noach priait constamment. Il demandait « Hashem le libère de cette puissance, de cette prison, pour qu'il puisse bénir le nom d'Hashem ». Et le Tanhuma continue, et il dit, c'est la raison pour laquelle, comme David HaMelech le dit dans Tehilim 32:6, il dit, Alzot itpalel kol chassid elecha, leet metzo, rak le shetef maim elav lo yagiv. Chaque homme te prie lorsque c'est le bon moment, c'est trouvable en fait, que le flot de ces eaux tellement abondantes ne le submerge pas. Le Sforno traduit que dès la toute première trace de souffrance, il faut prier pour que la souffrance ne nous submerge pas. On arrive à tenir. J'ai ma diane noire, j'ai décrété que tu ne sortirais pas de là, cette prison, avant que 12 mois ne soient passés. Noach, effectivement, est sauvé de la destruction, mais pendant 12 mois, il est immobilisé, il est enfermé. La prison est évidemment associée avec la mort des relations conjugales pendant ce temps-là, qui est en fait une autre façon de dire la disparition de la parole dans ces eaux furieuses. Exil de la parole, comme disent les Mekoubalim. Ils disent que Noach et sa génération ont une pathologie qui est appelée justement exil de la parole. Et comme dans toute génération, il y a quelque chose qui reste des gens de la génération du Maboul, cette pathologie n'est pas inconnue dans le monde du Maboul. En fait, il y a un désastre fondamental qui affecte la puissance du langage des hommes. Ils sont tellement, c'est très frappant aujourd'hui d'ailleurs, tellement ouverts, disons, entre guillemets, qu'ils sont totalement fermés les uns aux autres. La communication a complètement dégénéré. C'est un babillage de voix, indifférenciable. La compression, en fait, dans la boîte, qui est à la fois le mot, c'est l'image en miroir de la cacophonie à l'extérieur. Tout ce qui s'est passé, c'est toujours Mida Keneged Mida, c'est l'image en miroir. Ce qu'on a vu plus haut que Hachem a terminé quasiment ce que les hommes avaient déjà commencé. Quand on parle de l'état du monde, avant le déluge, on disait qu'ils étaient shtufim bezima, engloutis par l'immoralité. Shetef, c'est toujours shtufim, ça veut toujours dire quelque chose, une passion indifférenciée qui élimine toutes les limites. C'était ça la vie à cette époque. Noach est donc un Adam qui renaît. Il émerge de sa matrice prison, mais d'après le Midrash, il fait les mêmes fautes qu'Adam Arishon. Hachem lui dit, qu'est-ce que tu fais dans une vigne? Tu ne sais pas qu'Adam a été puni de mort, c'est la Chita qui dit que le fruit qu'ils ont mangé, c'était la vigne, le vin. Il est mort à cause du vin. La différence entre les deux, c'est que Noach avait le texte qui racontait l'histoire d'Adam. Il avait à le déchiffrer, il avait à en faire quelque chose. Par rapport à ce texte-là, il avait à faire la,
Torah Shebaalpé de ce texte, là, la Torah orale, celle qui dit ce qui n'est pas écrit. Alors on a vu, Vayachel Noach après le Tavoum, il a commencé. Il commence un nouveau processus. Il est Isha Adama, l'homme de la terre, l'homme lié à la terre. Une expression qu'on utilise, comme on dit, Ish Naomi, le mari de Naomi, par Elimelech. Il dit Isha Adama, comme s'il était marié à la terre désormais. Mais Hachem avait déjà dit, à partir de, après Adam, il avait dit, Lo osif le kalelot et ta adama ba'avura Adam. Je ne maudirai plus, au sens où je ne rendrai plus stérile, quasiment stérile ou presque stérile, la terre à cause de l'homme. Il comprend qu'on est dans un nouveau monde. Il commence ce nouveau processus de travail de la terre. Et il plante cette vigne. Dans le lien avec la terre, il y a un danger. L'homme devient de plus en plus matérialiste. Et par conséquent, lentement, il se coupe de son travail spirituel. Dans son travail, comme Isha Adama, la faute de Noach, il ne plante pas du blé. Il aurait dû planter du blé, quelque chose de constructif, quelque nourriture nécessaire. Il aurait pu planter un cep de vigne. Mais une vigne entière, c'est un lien trop fort avec le monde matériel. Commencez par là. Le pas suivant, on voit très bien. Il va boire le vin. Finalement, c'est marqué vin et chaker. En fait, on ne dit pas ici vin ishtaker, qui aurait été une forme un peu plus passive. Vin ishtaker, c'est comme s'il était. Il avait bu pour se rendre, pour se mettre dans cet état d'ébriété. Il voulait avoir ce flou dans le jugement, ce flou dans la compréhension, dans la critique. C'était ce qu'il voulait. Ne pas être obligé de regarder les choses. Non. Et finalement, il arrive au dernier degré, c'est Vayit Gal. Dévoilement, il se détache de toutes les valeurs morales. Il se rend dépendant d'un désir débridé, en fait. C'est ça qui lui arrive. Ce ne sont pas seulement des relations interdites. C'est le dévoilement de quelque chose qui aurait dû rester caché. Et c'est ce qu'on nous dit, Vayit Gal, Betoch. En fait, il se dévoile, Betoch, à Olo dans sa tente. Mais le mot tente, ici, sa tente, qui se lit à Olo avec une terminaison masculine, est écrit avec un réaf, avec une terminaison féminine. On lit O, mais c'est écrit A. Il y a un ré à la fin. Le sujet dans la tente, c'était les femmes, notion de Herva. Mais tout ça, ça se passe malgré tout à l'intérieur. Ça reste à l'intérieur. Le Tor arrive Cham avec Nan, qui voit Herva Taviv. C'est son fils, dit le Midrash. Il a vu et il a appelé son père. Et il regarde la situation. Ce n'est pas un regard en passant comme ça. Non, tout à coup, il y a toute une réflexion qui commence en eux. Présentée de différentes manières, en réalité. Certains disent que Ils veulent empêcher Noach d'avoir d'autres enfants. Ils se sont partagés le monde à trois, ils ne veulent pas le partager à quatre. C'est Knan. Knan, c'est celui, comme je vous ai dit, qui va développer le Gilui Arayot au point que ça devient sa caractéristique. Eretz Kenaan, le pays de Gilui Arayot. Et alors, il y a deux lectures de ce qu'ils vont lui faire. Une lecture dit que c'est un processus de castration, et l'autre de sodomisation. Sodomiser Noach, c'est le rendre inapte à avoir un enfant dans la mesure où il n'est pas saoul par rapport à la Kedusha. De la même manière qu'un korban qui aurait été sodomisé, si on parlait comme ça, est aussi pas saoul, on ne peut pas l'apporter comme korban. Il n'a plus rien à voir avec la Kedusha, c'est terminé. Noach ne pourra plus avoir d'enfant de ce point de vue-là. Pour la castration, c'est encore plus clair. Il s'agit d'un désir complètement débridé, c'est-à-dire, en fait, il s'agit de séparer le côté construction de la relation entre un homme et une femme du côté d'une relation qui serait de pure jouissance. C'est-à-dire, en fait, empêcher le Kriya Veridia, empêcher de la construction. Ok, tout ça, c'est leur regard. Mais la gravité, c'est... Ils ne se contentent pas de cela. Ils le racontent à ses frères, à l'extérieur. Chose-là qui était limitée à l'intérieur. Maintenant, elle est publique. Ils le racontent. Elle donne toute sa dimension de profanation. Quand Noach se réveille, il faudrait s'arrêter sur qu'est-ce que se réveille, mais bon. Il prend conscience de ce que son jeune fils lui a fait. Il comprend que boire, c'était déjà une erreur. C'est pas l'ébriété qui était une erreur, c'était déjà en amont. Il voit les conséquences de son action. Et Knan qui exprime la dégradation, la profanation, c'est lui qui est maudit. Noach ne maudit pas Ham, il maudit Knan. Maudire, comme je vous ai dit, c'est essayer de rendre quantité négligeable. Il essaye de faire en sorte que Knan, qui est le représentant de l'immoralité, en fait, il essaie de limiter les dégâts. Il le rend, il est mekalel oto. Il essaie de le rendre quantité négligeable. Ça, il faut s'imaginer que le degré de pourriture de Knan que nous connaissons, que la Torah nous décrit, c'est après la klala de Noach. Imaginez ce qui serait passé si Noach ne l'avait pas été Mkalel. Il ne lui avait pas donné le klala. En fait, c'est ça donc la faute de Noach. Une faute comme celle de Adam Arishon. Il y a donc trois fils, trois forces. Comme vous savez, ça va mener à l'échec, la tour de Babel. Et à ce moment-là, on aura l'opposition entre les Bnei Noach et Adam Arishon, c'est-à-dire entre Noach et Adam. En résumé, parce qu'on peut résumer, il existe plusieurs créations, plusieurs niveaux de création plutôt. Une première création qui semble inaccessible pour le commun des mortels et difficile pour les autres, qu'on ne voit pas réussir immédiatement jusqu'à Ça donnera un terme, les Bnei Israël, avec des, toutes sortes de vicissitudes aussi. Une seconde accessible, celle de Noach, qui fait les mêmes fautes qu'Adam Arishon, bien qu'il ait eu, comme je vous ai dit, le récit de l'échec d'Adam Arishon. Ça donnera l'humanité, les Bnei Noach. Le passage de Bnei Noach à Bnei Israël est évidemment possible. Parce qu'il y a une trace de Adam dans le Nouveau Monde. Noach et ses fils sont une trace de l'Ancien Monde, donc de, du monde d'Adam. Le passage à l'inverse, des Bnei Israël vers les Bnei Noach, est impossible. Parce que les Bnei Israël ont accepté des responsabilités, donc on ne peut pas se décharger de ces responsabilités. La terre d'Israël favorise la rencontre de l'homme et d'Hachem. Canaan a eu cette terre. Dans cette terre, elle appartenait, la terre d'Israël, elle appartenait aux Bnei Shem, aux descendants de Shem, dans le partage du monde. Mais Canaan a fait la guerre, il a gagné la guerre, et il a pris possession de cette terre. Ça, c'est ce dont on parle dans le premier Rashi. Hachem donne la terre à qui il veut. Il vous a laissé gagner la guerre contre Hachem. Parce que vous avez ainsi expérimenté ce que la terre pouvait vous donner, en quoi elle pouvait vous aider. Mais vous avez transformé ça en un lieu de Gilui Arayot. Donc, quelque part, vous êtes disqualifiés. Les Bnei Israël aussi, quand ils se sont mal conduits, la terre les a vomis. Avraham Avinu va inaugurer un nouveau monde. Mais celui-là, il ne va pas exister seul, comme le monde de Noach existe seul après le monde d'Adam. Le monde d'Avraham Avinu va exister parallèlement au monde des Bnei Noach. Il y aura des échanges obligatoires. Avraham Avinu ne sera pas créé par Hachem directement comme Adam. Il ne sera pas non plus sauvé seul comme Noach. Il se sera qualifié. C'est lui qui va se qualifier. Il va avoir l'aide d'Hachem. Mais son travail, le travail de l'homme ici à ce moment-là, c'est de se qualifier, fabriquer un monde. Comme on a dit, Kadosh Baruch Hu a mis à disposition de l'humanité le monde. Il a créé le monde avant de créer l'homme, avant de créer Adam. Quand quelqu'un vient et qu'il se réclame d'Adam, ça veut dire qu'il a compris que le monde qu'il a devant lui est un monde à partir duquel il doit créer lui-même. Il va falloir créer. On sait bien la création d'Abraham Avin. Et un nefesh asher asu bechavan. Les gens qu'ils ont amenés à la Torah, enfin c'était ce à quoi Abraham Avin était arrivé, il a amené les gens, et on dit, la nefesh asher asa. Les gens qu'il a fabriqués. La Torah dit que quand quelqu'un enseigne la Torah à l'enfant de quelqu'un d'autre, c'est comme s'il l'avait mis au monde. En vérité, nous avons plusieurs pères. On a un père, au sens habituel du terme, mais toute personne qui nous enseigne, toute personne qui nous enseigne la Torah est considérée d'une certaine manière comme un père. Et ce n'est pas parce que le premier père, si vous voulez, est défaillant. Parce que la preuve que c'est comme ça, c'est que les enfants d'Aaron sont considérés comme les enfants de Moshe. Pourquoi? Parce que Moshe a enseigné aux enfants d'Aaron, alors il est présenté comme leur père. Par exemple, les enfants de Moshe, dans la liste, il y a les enfants d'Aaron. Mais évidemment qu'Aaron n'était pas défaillant par rapport à ça. Évidemment qu'Aaron a enseigné à ses enfants. Et Moshe Rabbeinu aussi a enseigné à ses enfants. Lui aussi, il est le père. C'est-à-dire, un nouveau monde, en fait. Un monde où les notions de, y compris de paternité, de maternité, etc., peuvent être complètement différentes, parce que Sarah aussi, elle a fait des nefashot. Elle aussi, elle est considérée comme ayant mis au monde les personnes qu'elle a converties. Je vous remercie.
Merci.